Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 17 septembre 2020. Lorsque l'on regarde le titre de ce matin, on pourrait croire que j'ai complètement disjoncté et que je me suis mis à la rédaction de contes de fées. Mais en fait, c'est pas moi qui ai disjoncté, c'est juste les marchés qui sont en train de perdre la raison, ou plutôt qui ne trouvent plus leur direction. En ce qui concerne les IPO, la direction est claire, mais en ce qui concerne le reste, c'est plutôt flou. Et ce n'est pas en écoutant Powell que le GPS se remet illico en fonction. En fait, la journée d'hier pourrait se diviser en deux sections, la section Fed et la section IPO. Et si on se réfère à la seconde, il semble clair que les investisseurs n'ont plus peur d'aucune valorisation lorsque l'on se met à parler de nouvelles technologies que l'on ne comprend à peine. Alors que de l'autre côté, on devient très susceptible sur les déclarations du patron de la Fed par rapport au taux d'intérêt de dans 3 ans. Prenons d'abord le cas de la Fed. Hier soir, Jerome Powell a déclaré que tant que le taux de chômage n'était pas revenu à la normale et que l'inflation ne serait pas de 2%, les taux resteraient là où ils sont. Pour le reste, il s'est montré très peu enthousiaste sur l'état de l'économie et on peut le comprendre étant donné la situation actuelle. Suite aux déclarations, les experts en analyse comportementale de Jerome Powell étaient tous de sortie et à peu près tous les avis étaient dans la nature. Pour faire simple et pour résumer, les taux vont rester bas, l'économie est toujours plutôt morose, le chômage doit baisser et l'inflation doit monter si on veut que ça change. De mon point de vue, strictement rien, mais alors rien du tout, n'a changé depuis avant le meeting de la Fed et après le meeting de la Fed, ou alors je me trompe. Mais je ne crois pas me tromper. Donc après les déclarations de Powell, on a senti comme un découragement dans le marché. Le mini sell-off qui a suivi a entraîné les indices en direction des plus bas de ces derniers jours, mettant encore une fois en doute le rebond souffreteux que nous vivons depuis quelques jours. Encore une fois, les gérants se sont attaqués aux big names et ont allègrement tapé dessus. Pour faire simple, les Amazon, Apple, Microsoft, Google et Facebook ont passé une sale journée. Facebook plus que les autres parce qu'ils ont la brigade antitrust sur le dos. Mais on se rendait bien compte, encore une fois, que la taille démesurée des géants de la tech en fait une cible de choix lorsque la lassitude s'empare des marchés financiers. En tous les cas, il y a quelque chose qui semble cassé à Wall Street, pour ne pas dire pourri. Depuis le rebond de mars et l'envolée qui a suivi, nous étions dans une espèce d'euphorie dynamique qui ne laissait aucun doute sur l'avenir. Dès que ça baissait, on voyait revenir les acheteurs comme si ça ne coûtait rien. On nous parlait stimulus, liquidité abondante, soutien des banques centrales, soutien des gouvernements, injection monétaire. Et puis, depuis quelques semaines, plus rien. Le stimulus américain est en panne, les élections à venir freinent le processus, les valeurs technologiques ont atteint des niveaux de valorisation extrêmes qui laissent quand même à penser que l'on a anticipé une croissance majeure du secteur jusqu'en 2030 et on sait tous qu'il y a une explosion d'achats optionnels qui se balade là dehors, un peu comme si un terroriste se promenait dans un van avec une bombe sale prête à sauter au cœur de Manhattan. On sait qu'il y a un risque potentiel de retour de flamme si ces positions revenaient brutalement sur le marché. On a beau ne plus en parler depuis quelques jours. Mais entre la crispation sur le sujet de la surconcentration des portefeuilles sur 5 titres, tout comme la surconcentration du S&P 500 sur les 5 mêmes titres, et le fait qu'il y a peut-être quelqu'un là-dehors qui a une exposition optionnelle hors du commun, et qu'en cas de retour de manivelle, le Nasdaq qui s'estare pourrait en garder des cicatrices. Cet état de fait rend le marché très crispé et on le ressent très fort dans les journées comme hier et dans la faiblesse des rebonds de ces derniers jours. Il y a comme un ressort de cassé, cette moyenne mobile des 50 jours fait office de barrière anti-avalanche et si elle venait à céder, je préférerais pas être là. Bon, en même temps, j'ai pas trop le choix, je dois être là. Mais quand même, il y a un truc qui pue dans ce marché et je sais, ce n'est pas le même marché et qu'il y a 3 semaines, à moins que vous soyez devenu un spécialiste des IPO, auquel cas, rien n'a changé. Hier, nous avons donc eu droit à 2 IPO hyper chaudes et super bouillantes. Les 2 sociétés concernées sont des boîtes actives dans le software pour le cloud et on savait que ça serait du délire. Peut-être pas à ce point, mais on s'y était préparé. Avant d'aller plus loin dans le déroulement de ces 2 IPO, je voudrais déjà signaler le fait que tout le monde était hyper chaud et super bouillant sur ces 2 IPO et je suis pratiquement convaincu que 80% des gens qui ont acheté ce titre ou ces titres ne comprennent même pas ce que fait Snowflake ou JFrog. Non, parce que lorsque l'on parle d'Amazon, d'Apple ou de Facebook, ou même de Tesla, si vous avez un mec qui débarque de Mars avec 8 bras, 4 oreilles et qui est ouvert et qui vous demande de lui expliquer ce que ces sociétés font, je suis persuadé qu'un gamin de 15 ans qui passe plus de temps sur TikTok que sur ses bouquins de maths peut largement lui expliquer ça en 3 minutes très simplement. Par contre, pour ce qui est de JFrog et de Snowflake, c'est un peu moins facile. Oui, mais c'est pourtant simple, ils font du software pour le cloud. Super. Et c'est quoi du software pour le cloud? Qui a déjà vu un Snowflake Store? Qui a déjà travaillé avec JFrog? Et qui a déjà rencontré un cloud pour de vrai? Vous le concéderez, ces deux IPO sont un peu ésotériques lorsque l'on veut expliquer ce qu'ils font. Mais pour être honnête, en 2020, on se fout pas mal d'expliquer les choses. Il suffit de savoir que Warren Buffett est dedans alors qu'il n'a même pas un PC sur son bureau et tout le monde est content. Bref, hier, JFrog, qui avait été pricé à $44, a terminé sa séance en hausse de 47% à $67 et des poussières. La société israélienne a immédiatement explosé sa valorisation de base et on se demande déjà ce que ça vaut réellement. Et puis, il y a Snowflake, le nouveau chouchou de Wall Street. Depuis quelques jours, on sentait qu'il allait se passer un truc. Hein. Snowflake a donc passé ses derniers jours à augmenter son pricing à l'émission. Et après avoir atteint les $120, soit une valorisation de plus de 30 milliards, le titre a terminé son premier jour de trading en hausse de 130% à plus de $250. Alors autant vous dire que s'ils étaient venus faire ça au mois d'août en plein disjonctage technologique, eh bien, je ne suis pas loin de penser que le Nasdaq aurait pris 1000 points juste en sympathie. Il y a donc de quoi être satisfait de ce qui s'est passé. Oui, mais en fait, y a-t-il vraiment de quoi être satisfait ? Non, parce que je ne suis pas un fondamentaliste, et lorsque je vois un bilan financier, j'ai surtout envie de l'utiliser pour faire un feu de cheminée. Mais d'après ce que j'ai compris, dans le secteur technologique, la boîte la plus surévaluée jusqu'à hier matin, c'était Zoom. Zoom, vous savez, le truc qui nous a permis de rester en contact avec nos collègues pendant la pandémie. Eh bien, en termes de valorisation, si on prend le ratio revenu-vente, Snowflake est déjà deux fois plus cher et deux fois plus cher que la concurrence, comme Zscaler par exemple. Et je n'ai toujours pas compris ce que Snowflake fait vraiment. Bon, j'avoue, j'ai essayé de lire sur le sujet, mais à la quatrième ligne, je m'endors à chaque fois. Tout ça pour vous dire qu'il y a un truc qui ne joue pas. C'est trop cher, trop surévalué et il y a trop de monde qui trouve ça génial. Il y a quelques années, en l'an 2000 pour être précis, un de mes copains traders à Genève m'avait appelé pour me recommander une boîte qui s'appelait Illinois Supraconductor. Lorsque je lui demandais pourquoi il fallait acheter ça, la réponse fut assez basique. Ben, tu sais ce que c'est un semi-conducteur ? Ben oui. Ben oui, ils font des supraconducteurs, donc c'est mieux parce que c'est supra. Et le pire, c'est que j'en ai acheté et que je les ai toujours. Le seul problème, c'est que ça a pris le chemin inverse d'Apple et que ça vaut zéro. Alors depuis le temps, je ne suis toujours pas expert en supraconducteurs, mais j'ai appris qu'un semi-conducteur et un supraconducteur avaient à peu près autant en commun qu'une glace au chocolat et un hamburger. Tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé hier est complètement délirant. J'espère sincèrement que les projections de croissance que l'on donne à ce secteur, le software du cloud, sont correctes, parce que sinon, j'ai vraiment super peur. Ce matin, les futurs sont donc au fond du bac. L'euro-dollar s'est retourné suite aux commentaires de la Fed. Il est à 1,1750 et les supports des 1,18 ont été littéralement explosés par les commentaires de Powell. L'Asie perd entre 1 et 1,6%. Les futurs US sont indiqués en baisse de près de 1%. Et à ce rythme-là, la moyenne mobile des 50 jours sur le Nasdaq et le S&P 500, eh bien, elles vont exploser toutes les deux comme le support des 1,18 sur l'euro-dollar. L'or est à $1,945 et se demande si c'est à son tour d'y aller. Le pétrole atteint 39,65 et a même touché les $40 cette nuit, si t'as plus rien y comprendre. Et pour ce qui est des nouvelles du jour, je crois que nous avons déjà plus ou moins fait le tour. Tout le monde ne parle que de la Fed, des conséquences du discours de Powell qui visiblement ne sont pas bonnes. Et puis on parle de Snowflake, de TikTok qui fait toujours parler de lui parce que Trump se fait prier pour signer un deal. Ah oui, on apprend aussi que les USA veulent signer un contrat d'armement avec Taïwan à la hauteur de $7 milliards. Contrat qui va sûrement faire super, mais super plaisir aux Chinois. La journée qui nous attend risque d'être compliquée. Et je suis prêt à parier que l'on va nous ressortir les histoires du Black Thursday du 15 septembre 2008 et du fait que le mois de septembre est un mois tout pourri. Il est cependant assez vrai que nous sommes sur des zones critiques et les craintes que j'exprimais un peu plus haut sur la faiblesse des marchés sont peut-être en train de se concrétiser. Côté chiffres du jour, nous aurons la Banque d'Angleterre, le CPI en Europe, les jobless claims qui ont toujours leur carte à jouer dans cette belle ambiance. Il ne manquerait plus que l'on ait des chiffres pourris qui montrent que l'économie sous Covid-19 ne repart pas. Et il y aura aussi le Philly Fed. Et pour le moment, les futurs et l'Asie sont mal en point et ça donne plutôt envie de retourner se coucher. Bonne journée à tous, à demain ou alors à tout à l'heure sur YouTube, chaîne Suisse Côte Suisse. Très belle journée à tous, quand même.